Il y a toujours des tensions et on tente de faire l'équilibre entre le développement, évidemment, et le respect de l'environnement. Ces deux réalités qui souvent s'entrechoquent. Et là, il vient d'avoir une petite collision. Le tunnel du REM qui devait protéger au nord de l'aéroport de Montréal-Trudeau, parce qu'on est rendu un peu là dans la création d'un tunnel, on voulait passer pour protéger justement cette zone humide sous la zone humide. Eh bien, voilà qu'il y a un trou qui s'est créé et... On dit il y a un assèchement de cette zone humide-là et c'est dû au tunnelier, à ce trou qui a été creusé comme tunnel, qui a fait qu'il y a un affaissement de terrain. Arut Chitidian est vice-président aux affaires corporatives, développement et stratégie pour CDPQ. CDPQ, c'est la filiale de la Caisse de dépôt et placement qui est maître d'œuvre justement et responsable du REM de ce train-là. Bonjour, Monsieur Chitidian.
Oui, bon après-midi, Monsieur Mongrain.
Merci, vous aussi. Dites-moi, avant de parler de cet espace-là, comment va le dossier REM? Comment ça se déroule? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est sur les temps? Est-ce qu'on est en avant des temps? Est-ce qu'on est dans les coûts? Est-ce qu'on est hors coûts?
On est, M. Mongrain, dans un moment exceptionnel dans le projet parce que nous avons un nombre record de travailleurs sur tous les chantiers. Ils sont au nombre de 3000. Les travaux progressent à un rythme soutenu sur toutes les antennes parce que, vous savez, le REM, c'est un projet de train léger sur 67 kilomètres et chaque segment de ce projet-là est un grand projet en soi. Donc, il y a le segment de la Rive-Sud qui est en mode test. Il y a le segment dans le secteur de Domontagne où les stations prennent forme. Il y a le segment dans l'ouest de l'île et on a eu un jalon important la semaine passée avec la traversée de l'autoroute 40 par le poutre de lancement. Et aussi le segment de l'aéroport qui est un chantier extrêmement complexe où un tunnel doit être construit sous les milieux humides et sous les pistes d'atterrissage de l'aéroport de 3,2 km qui a eu certaines difficultés. Donc le tunnelier a été arrêté en début d'année, mais là le tunnelier est reparti depuis la semaine passée.
Parfait.
Donc ça avance.
Alors, donc, arrivons à la zone humide et arrivons au tunnel sous les pistes d'atterrissage. La zone humide, est-ce qu'il y a un lien causal entre son assèchement et le travail du REM?
Premièrement, dans la conception même du projet, il y a des choix stratégiques qui ont été faits pour justement atteindre une profondeur suffisante avec le tunnel pour éviter tout assèchement de la zone humide. Donc, cette profondeur-là est aux alentours d'à peu près 15 mètres. Et le tunnelier a été lancé au mois d'octobre dernier. Et il a été arrêté au mois de janvier. Donc là, je peux peut-être faire rapidement une chronologie. Lors de l'arrêt, il y a eu une décision prise pour débloquer la tête de foreuse du tunnelier. Et la décision a été de déployer des techniques de remédiation qui sont les moins intrusives. Parce que pour envoyer des travailleurs travailler sous la terre, dans une zone où les sols sont meubles, il fallait stabiliser le sol. Donc, nous avons utilisé une technique de stabilisation. La première, c'était par injection de bentonite. Donc, c'est une forme de boue pour essayer de stabiliser le sol. Et cette technique-là n'a pas donné les résultats escomptés. Et on a eu un tassement au mois de février dernier dans la zone où on essayait de stabiliser le sol pour envoyer des travailleurs sous terre réparer la tête du tunnel. Et ce tassement-là a été signalé aux autorités compétentes. Il y a eu des travaux de remédiation. Et la deuxième technique qu'on a utilisée et qui a finalement donné les résultats escomptés, c'est la technique d'injection par azote liquide.
Donc, pour geler le sol.
C'est carrément geler le sol. Et ce technique-là, qui est encore une fois, qui est pas très intrusive, parce que la façon la plus intrusive aurait été de creuser une tranchée pour essayer de débloquer le tunnelier. Fait qu'on a gelé le sol. Il y a des travailleurs qui sont rentrés sous le sol, réparer la tête du tunnel et il est reparti. Okay. Et on a observé depuis le redémarrage du tunnelier ce tassement-là. Donc, en ce qui a trait le lien causal entre la baisse du niveau des milieux humides et ce tassement-là, on est en investigation parce qu'il faut également dire que on a à peu près 20 de sondes qui mesurent le niveau des milieux humides, les nappes phréatiques profondes et de surface.
Mais c'est définitivement, en tout cas, à regarder les photos, je suis loin d'être un expert, mais c'est une dépression, c'est un sinkhole, comme on dit en anglais, comme on le voit dans l'article, une doline. Le sol s'est affaissé, il y a eu comme un glissement de terrain et ça fait comme un bouchon qu'on enlève dans le fond du bain. Là. C'est ça l'explication pour que les gens comprennent.
Exact, exact. Et pour justement,
c'est pas un hasard. Avoir,
mais ce tassement-là, ultimement, c'est fait dans un secteur où le tunnel est construit maintenant depuis un bout de temps. Donc, c'est pas la tête de Foreuse. Donc, juste pour vous imaginer, il y a un point de départ et un point d'arrivée avec le tunnelier. Donc, le point de départ était la rue Alexandre Nobel dans le Technoparc. Point d'arrivée, c'est l'aéroport. Donc, le tunnelier est parti et rendu à peu près à 300 mètres du point de départ. Et ce nouveau sinkhole, si vous me permettez, est à peu près à 100 mètres du point de départ. Donc, c'est en arrière du tunnelier. Donc, il y a une investigation en cours pour la raison de ce tassement-là, mais également une validation si le tassement a provoqué des déplacements des hydrauliques qui a amené les eaux des milieux humides vers les nappes phréatiques. Donc, dès qu'il y a une validation...
S'il y a une validation, vous allez prendre la responsabilité de rétablir les choses, de mettre les choses en état?
Entièrement. Entièrement. D'accord, donc, le consortium est responsable de s'assurer du maintien de ces milieux sensibles. Donc, dès qu'il y a une validation, il y aura des correctifs et des remédiations qui seront apportées en respect des lois environnementales en place.
L'autre affaire dont je vais vous parler, c'est la décision de passer sous les pistes d'atterrissage. Est-ce que vous avez dû modifier votre ingénierie là-dessus et vos plans? Vous n'étiez pas assez profond, puis vous allez, parce que l'arrivée des avions, les coups que ça donne au sol, il y avait un risque. Et là, vous avez été plus cru, allé plus cru avec le tunnel?
Donc, oui, le tunnel devait respecter une profondeur minimale qui doit être plus profond que 30 mètres. Et également, il y a des considérations opérationnelles qui sont imposées sur les travaux par Transport Canada et également Nav Canada.
Donc, vous avez creusé plus creux qu'initialement prévu. Vous avez été obligé, c'est des coûts supplémentaires pour vous, là.
Les plans initiaux ont été en conformité avec les protocoles de sécurité établis par l'aéroport. Donc, l'aéroport voulait une profondeur de X pour assurer la stabilité des pistes d'atterrissage. Et également, Nav Canada demandait certaines considérations également en ce qui a trait les périodes durant lesquelles le tunnelier devait opérer, parce que l'hiver, par moment, on a des tempêtes, et quand on a des tempêtes, il y a certaines pistes, il y a deux pistes à l'aéroport, en fait, il y en a trois, mais deux qui opèrent régulièrement, et si une piste est enneigée, il fallait pas mettre en danger la seule piste qui restait, fait que les travaux sont adaptés pour ne pas être sous les pistes durant les périodes hivernales.
Alors donc, quand ça va être terminé, le tunnel va être plus creux qu'initialement prévu?
Oui, le tunnel est creux dans le secteur de l'aéroport et est également creux dans le secteur des milieux humides pour protéger ces milieux sensibles.
Super. Échéance? On va l'avoir quand, notre REM?
Donc sur la rive sud, dès l'été prochain, donc 2022, les résidents de la rive sud, donc de la grande rive sud, parce que c'est pas juste les gens de Brossard qui vont profiter de ça, vont pouvoir profiter du système. Et également après, de façon séquentielle, dès 2023, automne, été, donc les gens de Saint-Laurent, Ville-Mont-Royal vont profiter de ça. Et graduellement après, en 2024, les gens de montagne, de l'ouest de l'île. Et la station de l'aéroport va être celle qui va être mise en fonction en dernier, donc fin 2024.
Il n'y a pas déjà une station qui était prévue ou qui existe, mais qui n'a jamais été utilisée sous l'aéroport?
Je crois que oui, mais j'ai pas toutes les informations sur la gare initiale qui était construite pour recevoir un système de transport structurant.
D'accord. Ben, monsieur Harout Chitilian, merci beaucoup d'avoir réussi à nous vulgariser tout cela et de nous avoir expliqué ce qui s'était produit. Et l'enquête se poursuit. On verra bien s'il y a un lien causal direct entre les travaux du REM et le milieu humide qui s'assèche. Merci bien.
Merci, M. Mongrain.
Merci, au revoir. Catherine Collin est coordonnatrice de groupe Technoparc Oiseau. Et c'est le groupe citoyen, ce qui est voué à la conservation des lieux. Bonjour, Mme Collin.
Bonjour.
Êtes-vous contente des réponses du REM?
Ben, je suis contente dans la mesure où il y a une prise de responsabilité. Ça m'encourage. Mais il y a des ajouts, je crois, à faire au compte-rendu qu'on vient d'entendre.
Comme quoi?
Déjà, il est vrai, nous avions été avertis qu'il était nécessaire pour le REM de stabiliser le sol, qu'il y avait une compaction du sol, un tassement, comme a été dit, du sol, pour prévenir les infiltrations. Mais par la suite, ce qui n'est pas dit, c'est que la situation qu'on voit avec cette doline, c'est c'est potentiellement une situation de subsidence où le sol a perdu sa pression et risque de s'effondrer. Et ça, cette situation de subsidence n'a pas été adressée il y a quelques minutes. Hein. Donc, j'aimerais bien avoir les retours du CDPQ, sur cette situation de subsidence.
Parce que vous dites, sinon, s'il n'y a pas une correction de ce que vous venez de dire, là, qui a été mis sous silence ou oublié par M. Chitidiane et par mon ignorance également du dossier, parce que je ne le sais pas au complet comme vous, j'y suis pas au quotidien, mais c'est donc qu'il pourrait y avoir d'autres risques d'affaissement, et là, ça mettrait encore davantage en péril ce milieu humide.
Voilà. Et puis, deuxièmement, je dirais que cette stratégie que le CDPQ appelle innovante, qui est l'injection d'azote liquide, normalement, c'est censé être appliqué en urgence pour une courte période. Mais nous, à Technoparc Oiseau, les ornithologues, les photographes qui y vont tous les jours,
ouais,
on voit des camions, des flottes de camions qui arrivent tous les jours d'azote liquide depuis le mois de mars. Donc, on a maintenant dépassé 4 mois d'azote liquide sur place.
Il paraît que ça crée davantage de gaz à effet de serre que du CO2.
Oui, moi, je ne suis pas experte.
Moi non plus.
Cela. Je suis plutôt ornithologue amateur qui est très désireuse de voir cet espace qui fait partie d'un espace plus grand de 200 hectares, ce deuxième poumon vert de Montréal qui est intégral à cet endroit. Mais oui, ça peut pas être à notre avis quand le CDPQ leur indique que ce n'est pas intrusif pour le milieu. Quand on voit cet assèchement et on voit la buée tous les jours d'azote liquide, on se pose des questions.
Bien sûr, et vous avez, à juste titre, les questions et toutes les questions se posent. Mais en même temps, je vous dirais, est-ce que c'est pas le mal nécessaire pour empêcher un drame éventuel? J'essaie de voir là, dans l'équilibre des choses.
Je voudrais pas spéculer là-dessus. On souhaiterait évidemment pas de danger, oui, profond, mais il y a un endommage qui sont en train de se faire à ce milieu humide et on a été promis que la surface ne serait pas affectée. Donc, on a le frais des poissons, par exemple, qui se passe du mois de mai en septembre, qui est essentiel pour nos oiseaux et la faune. Et là, avec cet assèchement, on craint que...
Ça devient un comptoir pour les oiseaux.
Voilà. Puisqu'ils sont réduits à une petite flaque d'eau qui reste. Mais pour l'année prochaine, pour les poissons, on ne sait pas ce que ça va donner, en fait, oui.
Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Collin, de votre participation, de nous avoir sensibilisés à cette réalité-là. Et en même temps, c'est toujours la même chose. Le développement que l'on veut le plus respectueux de l'écosystème, il y a des occasions où il y a des collisions, si je peux dire. Et c'est le cas ici. Merci beaucoup, madame.
Oui, c'est moi qui vous remercie.
Merci. Au revoir.
Au revoir.